Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose son nouveau numéro autour de la gestion des frontières. Comme vous le savez, la maîtrise de la gestion des frontières est l'un des préalables majeurs pour la paix et le développement de la RDC. Le professeur Chibangu Kalala le dit dans son livre intitulé « La RDC et ses 11 frontières internationales aujourd'hui et demain » présenté au public la semaine dernière à Kinshasa. Une certaine opinion estime qu'il faut une autre conférence pour déterminer définitivement les délimitations avec nos voisins. Question de trouver la paix avec ceux qui nous entourent. Mais par contre, une autre opinion pense les contraires. Pensez-vous que la maîtrise de la gestion de nos frontières serait vraiment un préalable pour la paix avec nos voisins? Une conférence pour éclaircir cette situation est-elle nécessaire? Alors, qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous rejoindre au 081 890 49 69 ou encore au 081 890 63 à 30. Vous avez également la possibilité d'interagir ou encore d'échanger avec les différents auditeurs sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Viviane Mounier-Rankana, Bissimoa et Alain Goy concourent à la production de cette émission réalisée par Innocent Fadili Sengo. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La RDC et ses 11 frontières internationales, géopolitiques et droits international, c'est le titre de cet ouvrage publié par le professeur Chibangu Kalala que nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio. Bonjour professeur.
Bonjour Jean Longuembo.
Ça fait belle lurette. Comment allez-vous? Et la santé?
Bon, ça fait belle lurette, mais j'étais dans un laboratoire en train de fabriquer cet ouvrage.
Alors d'ailleurs la première question, dans quel contexte aviez-vous mené ces recherches?
Oui. D'abord, merci, Jean Lungembo. C'était un grand plaisir pour moi de retrouver cette maison que j'aime bien et de retrouver mes amis au Capi, que je n'ai pas encore conversé avec eux depuis un certain temps. Eh bien, cet ouvrage, je l'explique dans l'avant-propos, comment j'ai eu l'inspiration pour rédiger cet ouvrage. Mais c'est une coïncidence, vraiment. Parce qu'en 2012, quand j'ai eu l'idée de rédiger cet ouvrage sur les frontières, c'était au moment où le M23 venait d'occuper la ville de Goma. Mmh. Et que l'église catholique, que je salue, nous avons une église catholique prestigieuse dirigée par des élites religieuses de grande qualité, qui lance un appel de mobilisation, une mobilisation générale de tous les Congolais pour marcher, pour protester contre cette tentative de balkanisation de notre pays, de l'occupation de la ville de Goma par un mouvement rebelle soutenu par des forces étrangères. Pour le 1er août 2012, c'est en ce moment-là que j'ai eu l'idée en disant, bon, mais alors, il faut donner à notre peuple qui se bat jour et nuit, qui réclame l'unité territoriale, l'intégrité de notre pays, il faut leur donner
un outil
des combats politiques, des combats intellectuels,
des négociations même,
des combats juridiques et des combats diplomatiques. Il faut que je puisse retrouver tous les titres des propriétés. Parce que j'avais l'impression, mais continuez encore, que nous sommes comme un propriétaire d'un grand, comme vous par exemple. Vous êtes propriétaire d'une très grande parcelle. Vous dites que c'est votre parcelle.
Mais si vous ne détenez pas des titres de propriété, ça ne vous appartient pas.
Voilà, vous n'avez pas des titres de propriété, et puis la parcelle elle-même n'est pas clôturée.
Alors, et
surtout que vous ne savez pas où commence votre parcelle,
où finit
votre
parcelle. Limite.
Alors, il fallait résoudre ça. Et donc, j'ai travaillé pendant toutes ces années pour rechercher tous les titres des propriétés qui sont dispersés dans les archives en Europe. Heureusement
donc, il y a bel et bien des titres des propriétés pour nous.
Il y a titres des propriétés qui sont internationaux. C'est encore très fort. Internationaux, ce sont des accords et des traités signés à l'époque coloniale. Et par après, il y a eu un autre titre important sur la frontière avec la Zambie. Ça, c'est avec Marshal Mobutu et président Kaunda pour rectifier une partie du traité. Et donc, il fallait retrouver tous ces traités et qui se trouvent aujourd'hui dans cet ouvrage. Et puis, expliquer comment on a créé ce territoire, comment on a créé l'État
congolais. Comment on est arrivé là, avoir le Congo avec 2 345 000 km².
Et alors, nous avons maintenant une arme de combat entre les mains du peuple congolais pour lutter contre la balayage.
Alors, d'entrée de jeu, professeur, dans votre livre, vous affirmez, je souligne que c'est votre pensée, que la création de la RDC, autrefois Congo-Belge, Esaïe par la suite, est artificielle. Et pourtant, l'histoire nous renseigne que c'est le Congo de nos ancêtres, de Kipavita, Simon Kimbangu, de Lumumba et autres héros nationaux. Alors, comment comprendre la substance de votre pensée?
Oui, ça, c'est de la poésie,
On fait du romantisme. Quelqu'un d'autre dira, c'est l'idéologique, c'est l'élan patriotique.
Oui, oui, on essaie d'agiter la corde patriotique. Non. Moi, je suis un homme des sciences.
Ce n'est pas les Congos de Lumumba.
Non, moi, je suis un homme des sciences. Et la science, c'est l'objectivité. La science, c'est de pas falsifier les faits et faire de l'observation, en fait. Donc, moi, je suis entré dans les archives. Ce qui est vrai, je pense que tous les Congolais, comprennent cela, ce ne sont pas nos ancêtres qui ont créé ce territoire de 2 345 000 km². C'est vrai que nous sommes là depuis des millénaires. Les pygmées sont là, c'est pas combien de millénaires, donc nous sommes là. Nous occupons cette terre. Mais le territoire, tel qu'il est...
Très bien tracé.
Tel qu'il est délimité aujourd'hui, cette carte, quand nous voyons au cœur de l'Afrique centrale, un pays imposant, etc., ce ne sont pas les ancêtres.
Ce n'est pas une manne qui est venue du ciel.
Non, ce ne sont pas les ancêtres qui ont fait. C'est un étranger. Un Allemand, donc un Belge d'origine allemande.
Vous voulez parler de Léopold II.
Le roi Léopold II. C'est lui, avec son argent, avec ses moyens personnels, qui s'est lancé dans cette aventure coloniale. Nous sommes au 19e siècle, c'est la mondialisation au 19e siècle, la première mondialisation. Il fallait aller conquérir des terres, aller explorer l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, dont on ne connaissait pas grand-chose. Et donc, il y a eu cette conquête coloniale. Et c'est dans ce mouvement-là que lui aussi s'est dit, bon, je suis roi d'un petit pays, la Belgique. Mon père voulait avoir la colonie, Léopold Ier, ça n'a pas marché. Moi, je dois régler ce problème. Alors, il a recruté des gens, des jeunes gens, c'est une longue histoire, peut-être qu'il faut...
Voilà, donc, une histoire connue, c'est un livre de 900 pages, je recommande d'ailleurs aux gens.
Oui.
Donc, Stanley arrive.
Eh ben, il est allé, il a commencé par créer organiser une conférence géographique de Bruxelles en 1876, avec des pays, il est venu. Après la conférence, on a créé l'Association Internationale Africaine, AIA, qui a commencé, c'était pour une mission de civilisation, il faut aller en Afrique, au cœur de l'Afrique centrale, pour aller voir comment, est-ce qu'il y a des Noirs là-bas, comment ils y vivent, etc. Il faut civiliser ces gens-là, qu'ils considéraient comme des sauvages.
Des sauvages, des fantômes,
mais,
des gens qui...
Oui, mais derrière ce projet, il cachait son ambition. Il fallait pas tout de suite là dire, oui, j'ai besoin d'une colonie. Mais il voulait présenter ça comme une entreprise philanthropique. Une mission de civilisation. Mais après, il y a eu des problèmes dans l'AIA, et puis il a changé cela en comité d'études du Haut-Congo, qui avait une vision beaucoup plus commerciale, une entreprise. Il a associé quelques banquiers, des amis belges et autres, pour l'aider. Et puis il y a eu des problèmes d'argent, ça n'a pas marché. Et tout cela, il le faisait avec son argent personnel. Et puis après, il a recruté Henry Stanley, un Anglais, qui venait de traverser le centre de l'Afrique d'Est
et c'est à l'Ouest. Avec Stanley qu'il réussira à avoir des traités avec nos ancêtres.
Tout à fait. Avec Stanley, il a signé, Stanley est venu ici en 1879.
Il a même placé les drapeaux.
Justement.
Les drapeaux qu'on avait en premier lieu, les drapeaux bleus avec une étoile.
C'était le drapeau de l'AIA, Association Internationale Africaine, qui est devenu le drapeau du comité d'études du Haut-Congo, et après, le drapeau
de l'État indépendant du Congo.
De l'AIC, Association Internationale du Congo, le premier État qui a précédé, parce que j'ai découvert dans les recherches, qu'il y a eu un premier État. Il y a eu État ce que j'appelle dans le livre, ça ce sont mes qualifications comme chercheur, l'État haïtien. Il a eu d'abord un autre État, État haïtien, qui a été reconnu par 13 pays, bon, par la communauté internationale de l'époque, qui a été reconnu aussi à la conférence de Berlin, c'est l'État haïtien. C'est après que Léopold II a créé maintenant l'État haïtien, l'État indépendant du Congo. Deuxième État, ce sujet-là. J'ai fait des découvertes extraordinaires que je ne connaissais pas moi-même avant. Et donc, il y avait le drapeau, c'est toujours le même drapeau là, bleu, avec une étoile. C'est le drapeau, et aujourd'hui nous avons toujours cette couleur bleue dans notre drapeau, et qui signifiait à l'époque, là, il sait, la couleur bleue qui signifiait les ténèbres africaines, et puis l'étoile jaune qui était au centre, c'était flambée d'espoir. L'espoir dans les ténèbres africaines, flambée d'espoir dans les ténèbres africaines. Donc une mission de civilisation, on cache là-bas. Mais lui, son plan secret, c'était d'avoir une colonie. Et Stanley, qui connaissait l'Afrique centrale, lors du deuxième voyage, qui a découvert la bouchée du fleuve Congo, en découvrant que ce fleuve qu'on voit à Moanda, il vient du sud, il fait le cours, etc. Et c'était une nouvelle sensation à l'herbe. Et Léopold II saute sur l'occasion, il contacte Stanley, il dit à Stanley, bon, écoutez, j'aimerais travailler avec vous. Vous allez m'aider à avoir une colonie, à avoir des terres en Afrique
après
équatoriale.
Après un premier refus, Stanley, finalement, il cédera à la demande du roi. Et là, nous sommes avant 1885. Et puis, ils collaborent ensemble. Ils commencent à travailler. Stanley signe des traités avec nos ancêtres. Et puis, finalement, c'est le roi qui va solliciter les puissances pour qu'on puisse reconnaître l'État du Congo.
Tout à fait. Nous sommes au 19e siècle. Et comme on dit dans la Bible, nul n'est prophète chez lui. Stanley refuse de travailler avec Léopold II dans un premier temps. Il dit non, tout ce que j'ai fait en Afrique, je dois remettre ça à mon pays. Il va à Londres, au ministère des Affaires étrangères, au Foreign Office, il dit voilà, j'ai trouvé des choses extraordinaires en Afrique, j'aimerais que mon pays, l'Angleterre, s'en occupe. Il est négligé, boudé par le gouvernement anglais, rejeté comme un malpropre. Et finalement, il revient au service de Léopold II, et en 1879, Léopold II envoie Stanley ici au Congo. Il est resté pendant 5 ans au Congo pour signer des traités, des accords avec les chefs coutumiers à partir de Palabala, Luozi, chez les Manyanga là-bas, vers Vivi. Il a continué le long du fleuve Congo. Et bien, évidemment, il y a eu aussi d'autres personnes que Léopold II a envoyées comme Wisman. Hein.
Et puis, ils ont habitants, rassemblé toutes les données.
Tout à fait. Les habitants de Kananga connaissent bien Wisman. Et qui a signé aussi
le traité pour éclairer la lanterne, avant d'ouvrir les standards, professeur, au départ, 13 puissances reconnaissent en 1885 le Congo comme un État indépendant. Une affaire personnelle du roi Léopold, à croire vos propos. Alors, comment alors on est arrivé à la cession du Congo à la Belgique?
Oui, c'est très bien. Donc, à la conférence de Berlin, qui a duré pendant 3 mois, 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885, pendant ces 3 mois, il n'était question que, essentiellement, évidemment, il y avait la partie du fleuve Niger, c'était d'abord essentiellement notre pays, le bassin du Congo, qui était au cœur des débats et des discussions. Et on a donné tout ce territoire, si vous voulez, à Léopold II, on a reconnu l'État haïtien, l'État haïtien, comme moi je l'appelle, de Léopold II, en 1885. Il y avait 14 pays, hein, 14 puissances, comme on les appelait à l'époque.
Mais il y a 13 qui aujourd'hui, parmi les 14, il y a 4 qui sont dans l'OTAN, et à part l'Angleterre qui n'est pas dans la ligne européenne.
Bah, l'immense majorité, à part la Russie, mais l'immense majorité des secrétaires d'État se trouve aujourd'hui dans l'OTAN. Et la grande majorité également se trouve aujourd'hui dans l'Union européenne, à part la Turquie et la Russie qui était là, mais non, très récemment, l'Angleterre qui a quitté. Et donc, ce sont les grandes puissances de l'époque. Et rappelez-vous que...
Mais il ne croyait pas au roi Léopold. Il pensait que bon, ça allait, avec ses propres moyens, il les laisse fatiguer pour gérer les Congo.
Tout à fait. Et puis, en ce moment-là, le roi s'engage, il commence à travailler... la Belgique, le Parlement belge lui donne l'autorisation d'être à la fois roi des Belges et roi de notre État, donc État indépendant du Congo. Il a cette autorisation et il trace les frontières de la RDC lui-même de façon unilatérale, sans concertation avec aucun autre pays. Hein. Il trace les frontières, mais qui ont évolué entre-temps. Mais vous posez la question, mais comment il a cédé le Congo à la Belgique? Eh bien, ça, c'est de la géopolitique mondiale de l'époque. je ne le savais pas. Mais avec les recherches, et grâce aux recherches des historiens belges, nous savons ce qui s'est passé. Parce que Léopold II n'a pas cédé le Congo à la Belgique de gaieté de cœur. Il n'était pas content. Il était forcé et contraint parce que il y a eu des très fortes pressions exercées sur lui par la communauté internationale, les grandes puissances de l'époque, qui ont dit, monsieur, nous constatons avec tous les rapports qui nous viennent du Congo, vous êtes en train de violer le cahier des charges qu'on vous avait donné à Berlin il y a 20 ans.
Et les cahiers des charges constituaient les libre-échanges. Les libre-échanges, toutes les puissances devaient...
On a donné ce vaste état, ce vaste territoire que nous avons aujourd'hui, à un roi, par la communauté internationale, avec un cahier des charges. Vous devez ouvrir le pays au commerce international. Nous devons tous nous venir là-bas, nous installer,
profiter de...
faire les affaires, gagner de l'argent sans aucune contrainte. Pas d'impôts, pas de douanes, nous venons faire les affaires au Congo. Et vous, vous êtes là le gardien de cet ordre mondial économique, là, chez vous. Et puis, il faut respecter les droits des Noirs. L'intérêt général, il faut les aider à accéder à un niveau de vie supérieur dans le cadre de la civilisation. Voilà le cahier des charges, grosso modo. Mais on constate
que le roi n'a pas
respecté. L'administration, oui, l'administration coloniale, qui était ici dès Léopold II, avec l'affaire de caoutchouc rouge, où on coupait les mains des gens qui n'apportaient pas du caoutchouc, etc., des attaques commencent contre Léopold II. Et des voix s'élèvent pour lui arracher le Congo.
Alors on le pousse et le Parlement récupère.
On le pousse, on convoque, on menace de convoquer une deuxième conférence internationale, qui serait sorte de Berlin II, pour évaluer le bilan de Léopold II.
Alors, je crois qu'on
va... Et il y a eu peur.
On va y revenir. Le temps pour dire, est-ce que le cahier des charges aujourd'hui continue encore à nous coller à la peau?
À mon avis...
Rapidement, avant qu'on retrouve les auditeurs.
À mon avis, oui.
Les puissances continuent à contrôler.
Les conditions de création de notre pays au 19e siècle, c'était une création artificielle de la communauté internationale autour de Léopold II, à qui on a donné l'occasion de gérer ce pays. Ce cahier des charges, à mon avis, politiquement et moralement, ce cahier des charges est toujours là, même si on ne le dit pas ouvertement. Et nous devons faire très attention dans la gestion de ce pays.
Voilà, on va revenir parce comprendre... que c'est dans le livre, vous conseillez aux autorités, vous conseillez à tout le monde de pouvoir faire attention à la gestion de nos frontières pour éviter les différents conflits. Alors on va ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Okapi Sport vous propose en rediffusion sa partie interactive tout le lundi à 14h15, heure de Kinshasa. La passion du sport, c'est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci beaucoup de votre fidélité à Radio Okapi si vous nous rejoignez. Bienvenue dans Parole aux auditeurs. La RDC et ses 11 frontières, la géopolitique et les droits internationaux, c'est le titre du livre publié par professeur Tshibangu Kalala. Nous en parlons. Alors, est-ce que tout le monde a la maîtrise de la gestion des frontières et de réalité? Pourquoi des rivalités des puissances aujourd'hui sur les sols du Congo? Alors, nous en parlons avec vous, maître Kazimoto de Goma. Vous êtes avec nous. Bonjour, maître.
Oui, bonjour, monsieur Jire Longembo. C'est Quasimodo Mpole de France, membre cadre AAC, parti cher à l'honorable Élisée Monembo et Tamkoumoué. Oui, d'entrée, je voudrais d'abord saluer notre invité, le professeur Tshibangu Kalala. Oui, s'agissant du sujet d'aujourd'hui sur la maîtrise de la gestion des frontières en RD Congo, ce que je veux parler est que il est un secret pour une personne de soutien des faits. Qu'avec le 9 pays frontaliers, le Congo est l'un des États qui héberge un très grand nombre d'étrangers, surtout les originaires des pays voisins, où certains conflits ethniques et de nationalité sont inévitables.
Oui. Merci beaucoup, Kazimoto. Alors, on va prendre Sylvain. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, cher.
Quelle est votre contribution dans cette émission, Sylvain?
Oui, merci. Je voudrais saluer les professeurs. Et je veux souhaiter qu'après cette émission,
Est-ce que vous pouvez changer un peu votre position parce que vous sortez en très coupé? Avec des micro-coupures, on ne saura pas bien vous suivre.
Là, vous me suivez?
Oui, allez-y.
Voilà, je disais que je salue les professeurs. J'ai commencé à les suivre depuis 2006 précisément, sur toutes les questions du pays. Il a des analyses très pointues et très pertinentes sur la question de la RDC. Je l'avais aussi suivi lorsqu'il suivait les dossiers autour de...
L'Ouganda, la RDC.
Voilà, tout ça, je l'ai suivi. C'est extrêmement important, le travail que le professeur est en train d'abattre. Je pense que ce sont déjà sur lesquels le Congo devait compter demain et même aujourd'hui. Alors, je reviens sur les sujets. Moi, je ne vais pas faire l'historique de cette question de la gouvernance de nos frontières. Le problème se situe exactement à trois grandes ou quatre grandes périodes. Je vais laisser ici la période post-coloniale, où nous étions devenus libres, mais je parle l'époque Mobutu. Mobutu a si maîtrisé les frontières congolaises qui nous a été dotée en 1960. On ne pouvait pas voir un seul militaire du Rwanda, de l'Ouganda pénétrer l'espace intérieur congolais. Ça a été une puissance militaire installée par la République d'Israël de l'époque pour sécuriser le patrimoine congolais qui est la RDC. Mobutu part, Kabila le père arrive, et c'est là où nous avons vu tous les envahisseurs, toutes les personnes...
C'est les prédateurs.
Les prédateurs autour de notre patrimoine, M. Gers, laissez-moi le dire, et ça a été constaté avec un dégât patriotique aigu du côté de ceux qui se sont appelés jadis les princes des libérations du Congo. Donc, Kabila est venu maintenant avec l'accord de Mobutu, je pense que les profs en savent quelque chose. Avec l'accord de Mobutu, on est venu aggraver la situation de la gouvernance de nos frontières. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette émission, le professeur va revenir sur cet accord. Je n'ai pas assez de temps, parce que j'ai beaucoup d'occupations. Et aujourd'hui, ça a compris, puisque l'île de Rukwandi, qui fait problème depuis les indépendances, est devenue patrimoine qu'il faut donner à l'Ouganda. Ici, chez moi, à Nzida, à Orio, et partout, en territoire de Manke, en Ituri, il faut que ça devienne des patrimoines ougandais. Tout ça, on n'a rien compris quand Kabila est en train de faire ça. Et aujourd'hui, le président Félix, qui hérite de quelque chose qui ne dit pas son nom, est en train de se demander, puisqu'il se retrouve dans un ballot troué, il ne sait pas comment se comporter. Voilà qu'un d'une fils congolais vient de donner un ouvrage. Vraiment, je veux que j'aie son
niveau. Mais curieusement, pour votre information, nous avons été à la présentation de ce livre. Autour de nous, il y avait même des ambassadeurs, des responsables de certains organismes internationaux. Mais bon, moi, personnellement, je n'ai pas vu assez de personnalités de notre pays pour...
Je vais vous dire une chose. Dans ce pays, nous avons déjà acquis un comportement qui tente de saper les intelligences. Et ça, c'est grave. Je puis vous dire, je ne suis pas Kinshasa, mais le travail que les profs ont bâti, j'ai eu seulement les échos sur la radio Capi, les Congolais et surtout les dirigeants, commençant par M. Félix, président de la République, le Premier ministre, ils doivent se procurer cet ouvrage. Et d'ailleurs,
je crois qu'ils vont le faire juste après cette émission. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé. Alors, Kalo Kaloji, vous êtes avec nous. Bonjour, Kalo.
Bonjour, M. Gilles, et bonjour à notre... professeur Chibankala, que j'ai salué et j'ai eu la chance de partager avec lui sur cette question.
Quelle est votre contribution, Kalo?
Vous savez que la gestion de nos frontières, telle qu'annoncée dans les livres, moi je me sens tellement intéressé. C'est un livre qu'il faut lire pour desserrer vraiment les contours de l'insécurité qui règne à l'est de notre pays. Mais si on prend la gestion des frontières dans le sens, par exemple, que c'est la guerre qui est à l'est est liée aux non-reconnaissances de nos frontières, moi je dirais non.
Parce que vous venez de suivre Sylvain qui évoque le cas d'une île qui se trouverait entre la frontière de l'RDC et l'Ouganda. Aujourd'hui, on ne sait pas, si vous lisez les livres, les professeurs parlent des îles abandonnées aujourd'hui. On ne sait pas dire à qui appartiennent ces îles.
Non, je m'excuse, M. G. Moi, je suis en train de voir autrement. C'est-à-dire quoi? Je n'ai jamais entendu un de nos voisins réclamer une portion de terre, c'est-à-dire dire que non, la RDC a pris ma partie de terre. Moi, je soutiens, j'ai dit, si la gestion est dans le sens, par exemple, de doter notre armée, d'avoir une armée forte logistiquement pour mettre fin, barrer la route à celle-là qui veut envahir notre territoire, je suis d'accord. Mais parler, par exemple, de faire une conférence, c'est comme si on veut dire à nos voisins, en tout cas, maintenant, là, venez, on discute. Si vous trouvez que vous avez une partie qui entre dans la RDC, récupérer. Là, c'est cautionner. C'est accepter automatiquement la balkanisation de notre pays. Mais moi, ce que je demande au professeur, je n'ai pas encore lu le livre, mais c'est tellement intéressant. Quand on fait un travail scientifique, c'est-à-dire c'est pour résoudre un problème. Ce que j'ai appris.
Ouais.
Comme le professeur a émis quand même des causes, selon lui, qui fait que la RDC soit dans l'insécurité dans la partie est de notre pays, moi, je me dis, si réellement on maîtrise les frontières par l'armée, c'est-à-dire la sécurisation réellement de l'armée, parce que ça fait partie des missions régaliennes de notre État, moi j'ai dit oui, on doit vraiment organiser l'armée. Maintenant, les grands problèmes, monsieur Gère, moi je me dis, les causes ne sont pas seulement pour les frontières, qui ne sont pas reconnues.
Donc pour vous, les causes sont ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Kalo. On ne va pas aller plus loin parce qu'on doit quand même passer à l'essentiel. Alors, professeur, tout à l'heure, on vient de suivre Sylvain qui a évoqué un cas d'une île qui serait peut-être l'objet de conflits. Alors, je voulais savoir un peu aujourd'hui, quelles sont les îles qui sont abandonnées, où ils ne sont pas connus?
Oui,
parce que qu'il faut l'objet des problèmes quand même avec nos voisins.
Oui, je vais saluer d'abord tous les auditeurs qui vont poser des questions ou qui ont fait des observations. Quasimoto,
Sylvain et Kaloj.
Merci Kaloj. J'imagine que vous êtes des Mbujimaï.
Oui, Kaloj et Mbujimaï.
Merci pour vos commentaires. Et Monsieur Sylvain, merci. Un grand merci pour des propos aimables que vous avez tenus à mon égard. Je constate que vous me suivez depuis 2006, c'est bien. Merci beaucoup. Mais, en résumé, en partant de la question de Sylvain,
parce qu'il a évoqué un cas de l'accord signé à l'époque.
Oui, Sylvain, je connais bien l'accord de Ngurudoto. Je l'ai. J'en parle un peu dans le livre, le résumé des extraits pertinents. Je connais cet accord de 2008. Ngurudoto, c'est une ville de Tanzanie. Il y a eu un accord signé entre le président Kabila et le président Museveni en présence du président de Tanzanie, Jakaya Kikwete. Sur cette affaire de l'île de Rukwanzi, je parle de l'île de... C'est une presqu'île, c'est pas une île, c'est une presqu'île de Rukwanzi. J'en parle dans le livre, je connais. C'est vrai que moi-même, j'étais très surpris que l'État congolais ait signé cet accord d'Ngurudoto, en particulier à plusieurs clauses. Mais sur cette partie de Rukwanzi, parce que le gouvernement avait accepté à l'époque que l'Ouganda vienne, c'est une presqu'île qui est au sud du lac Albert. Et il y a des richesses là-bas, à Rukwanzi. Il y a tout le temps des conflits là-bas, on se bat avec des militaires, on a des congolais, etc. C'est en fait dans le delta de la rivière Semliki. La rivière Semliki, sur le plan de géographie, part du lac Édouard qui est au sud, elle remonte vers le nord et va tomber dans le lac Albert, au sud du lac Albert. Et à cet endroit, la rivière forme un delta, donc trois ou quatre branches. Il y a eu, et en ce moment-là, avec l'ensablement, avec les changements de lit de la rivière, Semliki, il y a un morceau de territoire assez important qui était du côté du Congo, et l'Ouganda réclame cette partie-là, cette île de Rukwanzi, en disant, oui, c'est sur mon territoire. La RDC, non, pas question, mon territoire. Il y a eu des négociations en 1959.
Et là, Léopold II n'a pas pu tracer.
Mais là, justement, on n'a pas bien déterminé. Mais là, c'est la Belgique et l'Angleterre, en 1959. Les documents, Sylvain, se trouvent dans le livre. Vous pouvez les lire. Je trouvais que c'était très, très intéressant ce que les Belges et les Anglais avaient fait en 1959. Et j'ai retrouvé ces documents dans les archives belges, que j'ai publiées ici, comme une base des discussions futures entre les Congolais et les Ougandais pour régler ce problème de la presqu'île de Rukwanzi. Ce qui a été fait en 2008 par le régime sortant, pour moi, j'ai trouvé que ce n'était pas ça. Il fallait pas que le gouvernement signe un tel document. Parce que la presqu'île est administrée par la RDC. Les pêcheurs, la population majoritairement, si pas 90% ou plus, ce sont des Congolais qui sont là. Mais on a autorisé les Ougandais à venir co-gérer, co-administrer la presqu'île de Rukwanzi avec...
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut encore une autre conférence internationale pour délimiter tout cela?
Donc, pour cette affaire de Rukwanzi, je pense qu'il faut aborder les choses autrement. Parce que ce qui a été fait, ça pose des problèmes. Mais il faut, en fait, que les deux pays se réunissent, qu'ils règlent le problème, parce qu'il y a le pétrole dans la zone... Et quand il y a des richesses naturelles,
ça
pose
des problèmes. Anglais sont derrière l'Ouganda dans cette affaire.
Donc, je ne vais pas aller jusque-là. Mais le problème, c'est comment l'État congolais, le gouvernement ougandais, autour d'une table, puisse arriver à déterminer la frontière au niveau de la presqu'île de Rukwanzi pour éviter... les incertitudes, les conflits, les bagarres qui sont là tout le temps, il faut arrêter ça. Si on ne se met pas d'accord, ça c'est ma démarche, si on ne se met pas d'accord, il faut aller devant la Cour internationale de justice. Les documents existent. Les travaux sont là, je les ai écrits dans le livre, et permettre au juge international de déterminer la frontière à cet endroit. Il y a une incertitude. Est-ce qu'il faut remettre
alors,
en cause...
Une incertitude comme ça, c'est presque dans beaucoup de presqu'îles ou dans des îles qui sont autour de nous, non?
Non, non, mais nous avons un problème sérieux. Je porte à la connaissance de notre peuple ce problème. Sur le fleuve Congo et sur la rivière Ubangi, frontière avec le Congo-Brazzaville, Ubangi c'est une partie, frontière
avec l'île Mbamou.
Avec la République centrafricaine. Il y a des centaines, d'îles sur le fleuve Congo, frontière avec le Congo-Brazzaville, sur le Ubangi, frontière avec le Congo-Brazzaville et centrafricaine. Gelungembo, depuis la conférence de Berlin, on n'a pas donné la nationalité à ces îles. On ne sait pas dire aujourd'hui, au moment où nous sommes avec vous, en train de faire cette émission, que telle île appartient au Congo, Brazzaville,
ou à la RDC. Et demain, si on découvre des matières premières là-bas, ça sera l'objet de conflits.
Ça sera des bagarres. Ça sera comme
avec le Congo-Brazzaville, ça sera comme ailleurs.
Oui. On ne peut pas tolérer une telle situation. Là, il faut qu'on ait une véritable politique national des frontières, une politique volontariste, dynamique des frontières, en disant il est temps maintenant, nous devons maîtriser notre territoire, nous devons connaître notre territoire, surtout au niveau des frontières, et maîtriser ces frontières. L'État exerce son autorité sur un territoire. Le peuple congolais habite sur un territoire. Le développement, tout ce que nous faisons, c'est sur notre territoire. Mais la moindre des choses, Gélungombo, c'est au moins de clôturer ce territoire.
Tout à fait.
De les délimiter. Et la délimitation a été faite. Sauf quelques poches où nous avons des problèmes, comme au niveau du littoral avec le pétrole dans Moanda, avec l'Angola, ou à Rukwanzi justement, où nous avons un problème où il faut fixer, bien faire les choses.
Mais là également, le chemin de fer est passé par du Congo en passant par une partie de l'Angola.
Oui, mais ça, on avait déjà réglé le problème parce que si nous avons aujourd'hui des Tchokwe et des Lunda en Angola, etc. C'est parce que justement on a cédé un gros morceau de territoire à l'Angola. Parce
ça, c'est le roi belge.
Oui, ça c'était fait.
C'est la haute géopolitique.
Ça, c'était la géoéconomie, de la géoéconomie, la géostratégie et même de la géopolitique. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas d'organiser encore une conférence internationale pour revoir les frontières avec les voisins. Non, M. Kalongi a parfaitement raison. Nous avons décidé au niveau de l'Afrique, à l'OIA, déjà en 1964, pour dire qu'on ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. On ne peut pas ouvrir la boîte de Pandore. Donc, ce qui a été fait à l'époque coloniale, les frontières ont été tracées, délimitées. Tous les États africains issus de la colonisation doivent accepter ces frontières.
Voilà.
Sauf si... deux États voisins estiment qu'on peut renégocier tel ou tel, ce que nous avons fait avec la Zambie. Donc on ne peut pas remettre en cause les frontières héritées de la colonisation. Il faut tout simplement aujourd'hui, pour nos frontières à nous, faire la démarcation. Il faut mettre les bornes partout. Donc il faut clôturer notre territoire.
Pour qu'on alors professeur, on va écouter Edmond qui nous a rejoint. Maître Edmond, vous êtes à Kinshasa?
Monsieur Vinicius, professeur du Banc Kalala.
Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre contribution dans cette émission?
Bon, en fait, monsieur Gère, moi je pense que J'apprécie bien l'œuvre du professeur ainsi que les idées qui sont contenues dans son ouvrage. Et je pense que la proposition est bonne. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, demander à la RDC ainsi qu'à ces pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola et consorts, de pouvoir se réunir pour déterminer les frontières telles que.
Non, le professeur ne l'a pas dit. C'est juste une question que nous avons soulevée.
Voilà. Merci beaucoup parce que je n'ai pas suivi le professeur depuis le début. Mais moi, je pense que faire dans ce sens-là, c'est exposer le pays. Parce que vous savez que le problème qui se pose entre nous et le Rwanda ou l'Ouganda, c'est pas un problème de frontières, il faut qu'on se le dise. Au vrai sens, c'est pas un problème de frontières. C'est-à-dire que ces pays-là sont des pays pauvres, qui n'ont pas de potentialité, qui n'ont pas de richesses, comme nous. Et ces pays ne réclament pas la frontière de la RDC, ils réclament le contenu de la richesse qui sont dans notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple...
Oui, mais maître Edmond, si vous aviez, parce que vous nous avez pris en cours, ces cahiers de charges définis, qui ont été définis par les puissances en 1885, qu'on a attribué à Léopold II, constitué par cet esprit de libre-échange, où tout le monde pouvait venir faire le commerce au Congo. Alors, aujourd'hui, j'ai posé la question au professeur si ces cahiers de charges tiennent encore ou tiennent la route jusqu'à aujourd'hui, et si cela ne nous colle pas à la peau. Il a répondu par l'affirmatif. Donc, pour dire, aujourd'hui, même en étant membre des États économiques de l'Est, et on évoque toujours les libre-échanges. Quand on va à la SADC, c'est les libre-échanges. Partout, en adhérant à l'OADA, c'est les libre-échanges. Donc, n'est-ce pas là que le cahier des charges nous colle à la peau?
Oui, ben, monsieur Gérard.
Parce que les grandes puissances, les Anglais, les Français, les Américains, ils sont tous derrière tout ça.
Oui, monsieur Gérard, moi je pense que le problème de libre-échange, circulation des personnes, circulation des biens, je pense que ça ne pose pas un problème. Parce que depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous sommes membres même de certaines organisations sous-régionales récemment adhérées qui prônent également le libre-échange. Pour ça, ça ne pose pas un problème. La circulation des personnes, des biens, pour toute l'humanité, ça a toujours été comme ça. Mais nous voyons l'animus, l'intention, par exemple, des pays qui nous entourent. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Nous voyons l'intention. C'est-à-dire que permettre aux Rwandais, par exemple, aux Ougandais de pouvoir venir investir au pays, c'est pas un problème. De venir circuler au pays pour effectuer les commerces, c'est pas un problème. Et nous voyons l'intention. Quand ces gens viennent au Congo, par exemple, vous savez maintenant, il y a une partie de l'Est qui est prise par les rebelles M23, soutenus par le Rwanda, par exemple. Et vous voyez, c'est à ce sens-là que nous croyons que aujourd'hui, si on se pose encore la question de pouvoir se mettre ensemble pour déterminer les frontières,
ça sera compliqué. Merci beaucoup. Merci Edmond. Alors, on va prendre Pierre. On n'a pas assez de temps. Il y a beaucoup de gens. Pierre Moussafiri est à Goma. Pierre, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour au professeur Tibangouka Lala et bonjour à l'invité. Bonjour à tous les invités, vous dire.
Voilà, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je veux dire que le professeur a montré son niveau de réflexion et ce qu'il pense sur la maîtrise de la gestion de nos frontières. Personnellement, je ne pense pas et je ne crois pas que c'est suite à la non-maîtrise de la gestion de nos frontières que nous n'avons pas la peur dans les pays, ni que c'est suite à cela que nous sommes l'un des pays sous-développés. Nous connaissons très bien nos frontières il y a des années. Il y a des années, et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à les situer. Peut-être si nous voulons construire des murs pour bien séparer notre pays et les pays voisins, pour bien assurer notre intégrité. Laissons les limites et superficies, messieurs les journalistes, mais parlons de la gestion de nos frontières par nos compatriotes de la DGM. Nous constatons réellement que nos frontières sont gérées par des... Nos frontières sont gérées par des personnes qui semblent ne pas savoir ce qu'il faut et ce qu'ils gèrent, ou bien qu'une fois...
Et c'est pourquoi nous parlons de la maîtrise de nos gestions, de la gestion de nos frontières.
La gestion de nos frontières sont gérées comme si les gens de la DGM gèrent comme s'ils gèrent leur maison. Il y a des entrées et des sorties non justifiées, les gens viennent rester dans notre pays. Et ne part pas oublier que les gens de la DGM oublient que ceux qui sont au Congo, ceux qui sont venus au Congo risquent de devenir un danger un jour pour la RDC.
Merci beaucoup Pierre. Alors, Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Ouais. Bonjour, vous allez placer également un mot, Ismaël.
Merci beaucoup. Je pense que le professeur Chimanga, c'est la deuxième fois que je vais changer avec lui. Mais je veux qu'il soit un peu concret par rapport à ce livre, parce que c'est un livre riche, je l'ai suivi, ça fait plus de 3 fois. Puisque ce livre est intéressant pour révéler un peu ce que c'est nos frontières, il doit être un peu, ne doit pas s'intéresser seulement sur la scientificité de ses livres. Je demande aussi, qu'est-ce qu'il doit faire pour que les accus et tout ce qu'il a écrit soient complètement mis en œuvre. En plus, aussi la fête de nos frontières.
Ben, ce n'est pas à lui de faire en sorte que cela soit mis en œuvre. Et je crois que, selon nos informations, ce livre a intéressé au plus haut point certains pays voisins et qui, en cours déjà, qui réclament même, je ne sais pas si l'information est vraie, je veux poser la question au professeur, qui réclament déjà qu'on puisse même le traduire en anglais. Donc, pour qu'il soit, parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant, mais la grande question, c'est que il faudrait que nous-mêmes, les compatriotes, que nous puissions nous intéresser aussi à cet outil des diplomaties, des négociations. Merci beaucoup. Bon. Voilà, merci beaucoup, Ismaël. Alors, professeur, que répondez-vous aux préoccupations des uns et des autres?
Oui, merci. Je vois Edmond qui a soulevé quelques idées intéressantes, des préoccupations, mais en réalité, il faut retenir ceci. On ne peut pas remettre en cause les frontières de la RDC. On ne peut pas convoquer une conférence internationale avec les pays voisins pour commencer à examiner les questions des frontières. Ça, c'est déjà réglé. Toute l'Afrique, et nous sommes tous unanimes à ce sujet, depuis 1964, dès qu'on a créé l'OUA en 1963, l'année suivante, au sommet du Caire, au mois de juillet 1964, tous les États africains ont dit, si on ouvre la boîte Pandore, commencer à contester les frontières que nous avons héritées de la colonisation, il y aura des guerres généralisées sur tout le continent. Partout, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de développement. Nous devons tous garder ce qu'on appelait le typo sidentis iuris. Donc nous devons garder les frontières telles que héritées de la colonisation. Donc on ne peut plus ouvrir. Maintenant, si deux États voisins trouvent qu'il y a quelques difficultés sur leurs frontières communes, ils peuvent se
réunir. C'est la Cour internationale.
Non, non, on peut le régler par la voie des négociations. C'est ce que Mobutu et Kaunda ont fait avec la frontière de la Zambie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de pays qui peuvent avoir des prétentions sur telle ou telle partie de notre territoire, au niveau de la frontière. Mais il y a deux ans, en 2020, l'armée zambienne a traversé la frontière et est venue occuper des villages congolais, en prétendant que ces villages se trouvent sur le territoire zambien.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème littoral, par exemple, entre l'Angola et la RDC, le problème au niveau de la botte, entre la Zambie et vers le Lubumbashi, vers le Katanga, au niveau de la botte, est-ce que ces problèmes, aujourd'hui, comment ça peut être réglé?
Et donc, il y a des problèmes là-bas. Entre le lac Tanganyika et le lac Muhoro, c'est là où il y avait tout le temps des problèmes, des conflits, les deux armées, lui-même en arrivée romain, des champs de bout de feu. Mais cette question, heureusement, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, on a abordé le sujet qui n'a pas été réglé depuis 1980, depuis plus de 30 ans. C'est l'année passée seulement, qu'on a commencé à poser des bornes, la démarcation. Poser des bornes sur le tronçon frontalier entre le lac Tanganyika et le lac Muhoro, jusque dans le méridien de Panta. Et donc, on a posé les bornes sur 140 kilomètres. Mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut envoyer encore de l'argent, envoyer des techniciens pour qu'on puisse parachever. C'est la meilleure façon de protéger une frontière, c'est de poser les bornes et montrer aux villageois...
Pas de murs pour une muraille.
Ça joue la fonction des murs ou des murailles. On pose les bornes et en ce moment-là, il y a la frontière est sécurisée. On n'a pas besoin d'aller placer des militaires le long de notre frontière pour les protéger. Aucun pays ne le fait au monde. Nous avons 11 000 kilomètres de frontière, vous n'allez pas mettre des militaires partout. Donc, pour ce genre de questions où il y a quelques divergences sur le tracé de la frontière sur le terrain entre deux pays voisins, on peut le régler de la manière, comme je vais le dire. Mais s'il y a
dans
des
votre
conflits...
livre, vous avez souligné et précisé des endroits où disons, il va falloir qu'on puisse avoir l'attention soutenue.
Tout à fait.
Il y a des, au niveau du littoral, au niveau de la botte.
Oui, nous avons un problème avec l'Angola. C'est connu, on en parle ici, avec le pétrole au large de Moanda. Et donc, nous prétendons que nous avons un territoire, ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC, dans l'océan Atlantique, où il y a des richesses. Il y a des poissons, ce qu'on appelle des richesses halieutiques. Il y a du poisson, il y a du pétrole. L'Angola prétend que nous n'avons pas droit à ce territoire-là. Eh bien, il y a un conflit, voyez-vous, alors que c'est notre territoire, et notre pays a délimité ce territoire conformément aux règles du droit international, après avoir consulté des experts internationaux, ils ont dit oui, ce que vous faites là, c'est conforme au droit international. Et le Parlement congolais a voté une loi promulguée pour ce territoire. L'Angola n'est pas d'accord avec nous. Parce qu'il y a des richesses là-bas. Mais il faut régler ce problème, par exemple.
Mais là où on va poser le port en eau profonde, c'est en Angola.
Non, ce territoire-là, c'était un territoire portugais. C'était un territoire portugais. Léopold II s'est battu au 19e siècle pour arracher l'embouchure du Congo, du fleuve Congo. Et nous avons cette embouchure aujourd'hui. Et c'est à cet endroit-là que le président de la République, encore une fois président Tshisekedi, est allé poser la première pierre pour qu'on construise le port en eau profonde. Ça, c'est encore un héritage de Léopold II. C'était un territoire angolais là-bas. Donc, on a eu ça. Ça, il n'y a pas de problème.
Non, ce n'est pas l'héritage de Kipanvita qui est de Congo central.
Non, mais ça, c'était en Angola. D'ailleurs, la capitale du royaume Congo se trouve en Angola aujourd'hui, à San Salvador. Donc, cet endroit-là, ce territoire-là, Moanda, Sanfumu, ce que vous voulez, c'était un territoire portugais que Léopold II a arraché des hautes luttes diplomatiques, géopolitiques, pour l'arracher du Portugal, pour attacher notre pays.
Alors,
aujourd'hui.
Avant d'aller plus loin, professeur, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'histoire, disons, comment le responsable, les autorités du Congo ont pu gérer, vraiment avec un esprit de la géopolitique, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, cette question des frontières?
Oui, je termine ce que je disais, pour rappeler, parce que bon, les gens disent, oui, mais il n'y a pas de remise en cause de frontières par des pays voisins. Non, il y a des problèmes. Par exemple, sur la frontière que Sylvain connaît bien, parce que Sylvain est de Bounia, nous avons eu des problèmes très sérieux au cours des dernières années avec l'Ouganda, vers le territoire de Harou. Bon, on se disputait une rivière. L'Ouganda prétendait que cette rivière, c'est une rivière ougandaise et pas congolaise. Il y avait un terrain vers le marché Kampala, Kinshasa, il y avait un terrain là-bas qui était tout le temps disputé. Les Ougandais prétendaient que c'est leur terrain, nous on disait que c'est à nous. Mais lorsqu'on a commencé à poser des bornes sur cette partie, eh bien, la RDC a récupéré toute une rivière que l'Ouganda prétendait être sa rivière. La RDC a récupéré ce terrain-là que l'Ouganda prétendait que c'était son terrain. Et la question a été réglée. Donc, il y a des problèmes comme ça au niveau de nos frontières, par-ci, par-là, et qu'il faut régler sur le plan bilatéral, de manière pacifique, pour conserver les relations d'amitié et de bon voisinage, et ça fera la maîtrise de notre territoire. Mais s'il y a des points chauds, on n'arrive pas à se mettre d'accord pendant des années, comme dans le littoral vers Moanda, dans le Certanté, ou vers Rukwanzi, où il y a
des problèmes. Il faut recourir.
Oui. Écoutez, il faut aller devant la Cour internationale de justice qui va tracer la frontière et mettre tout le monde d'accord. La Cour l'a fait, je termine par là, entre le Botswana et la Namibie, sur une île de Kasilikisedudu qui est dans la rivière Chobe. Les deux pays se battaient depuis des décennies sur la propriété de cette île, une petite île dans la rivière Chobe. Eh bien, ils sont allés à la Cour internationale de justice, on a réglé le problème, on a remis l'île Kasikilisedudu au Botswana. Et ce sont des pays membres de la SADC.
Je suis tenté de vous poser la question, professeur. Quelle est la réaction des autorités de la RDC? Ou quelles sont les réactions que vous avez recueillies des autorités également d'autres pays voisins, et qui étaient d'ailleurs dans la salle lors de la publication de cet ouvrage, et qui constitue un outil important pour les négociations afin d'éviter des crises?
Oui, je pense que cet ouvrage, c'est un outil.
900 pages.
Oui, 920. Je pense que cet ouvrage, c'est un outil. Je l'ai rédigé, c'est pour le peuple congolais. Je n'ai pas voulu faire un ouvrage qui doit rester dans les bibliothèques universitaires. Je voudrais que la société civile, les journalistes comme vous, les diplomates, les autorités compétentes, les hauts fonctionnaires, que tout le monde puisse avoir des connaissances. Il faut diffuser les connaissances. Comment notre territoire a été créé? Comment l'État a été créé? Les frontières, 11 000 mètres de frontières. Comment
on a seulement se mettre là à dire c'est un territoire légué par nos ancêtres.
Il faut connaître ça. De telle sorte que si un jour nous avons un problème, surtout les Congolais qui parlent de la balkanisation de notre pays, il faut que si nous avons un problème sur la frontière Rwanda-RDC, tout le monde a l'information. Comment on a créé cette frontière? Quelle est l'histoire? Comment les Belges et les Allemands ont réglé le problème? Si on a des problèmes sur la frontière, nous avons eu ce problème en 2007-2008 avec l'Angola sur l'affaire de Gahemba.
Oui.
Alors, on n'a pas à se battre. On n'a pas à aller en Belgique ou au Portugal pour aller chercher les documents. Les documents sont là. Et on peut régler le problème parce que le savoir, les connaissances, les documents historiques sont là, disponibles à portée de main. C'est ce qui a été fait. Maintenant, à la conférence, quand j'ai présenté ce livre il y a à peu près une semaine, la salle, il y avait beaucoup de diplomates étrangers, des ambassadeurs de Tanzanie, du Congo-Brazzaville, de l'Union européenne. Et je saisis cette occasion pour saluer, remercier l'ambassadeur, le représentant de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, qui a fait un commentaire élogieux sur cet ouvrage.
Il avait même tweeté.
Dans un tweet célèbre pour montrer l'importance de cet ouvrage. Il a dit beaucoup de bonnes choses et beaucoup d'autres. Certains diplomates étrangers m'ont contacté pour que je vienne parler avec eux dans leurs ambassades pour donner beaucoup plus d'informations.
C'est vrai que certains parmi eux ont demandé même la traduction en anglais.
Certains ont demandé, je pense à la...
Pour la compréhension de la partie... nous sommes dans la région, dans la sous-région, la partie anglophone, ils ont besoin quand même de comprendre mieux l'anglais.
L'ambassadeur tanzanien a été très actif sur le sujet. Il m'a même dit qu'il faut que je vienne, que j'aille à Dar es Salaam
donner des conférences. Vous avez animé une conférence hier à l'ambassade.
Tout à fait. M'a invité pour aller à Dar es Salaam dans une université, dans les universités tanzaniennes, pour parler avec les intellectuels tanzaniens et insister pour qu'on puisse
traduire. Qu'en est-il avec les autorités du Congo?
Je crois que les autorités, il faut leur donner un peu de temps. L'ouvrage vient de sortir. Bon, qu'ils aient eu le temps d'avoir suffisamment d'informations là-dessus. Je n'ai pas encore eu beaucoup d'échos de ce côté-là, mais
voilà. On va terminer avec une phrase peut-être. Vous parlez dans votre livre de 11 frontières contre 9 qu'évoque l'histoire du Congo.
Oui.
Pouvez-vous nous fixer là-dessus?
Oui, nous avons 9 pays voisins qui sont connus, mais il y a 2 autres frontières que j'ajoute. Ça c'est 9. 2 autres frontières, mais sur le plan juridique, sur le plan technique, nous avons la frontière de l'air. Au-dessus de nos têtes, nous avons une frontière. Mais comme je dis, puisque les Congolais, nous n'habitons pas dans l'espace, nous n'avons pas conscience, nous avons des frontières de l'air. Mais il y a des exemples récents qu'il faut faire comprendre cela. Nous avons un territoire au-dessus de nos têtes. Ce territoire a des frontières. Un avion étranger ne peut pas entrer dans ce territoire aérien de la RDC sans l'autorisation, voyez-vous, et nous pouvons un jour fermer cette frontière aérienne comme le gouvernement congolais l'a fait récemment à l'égard des avions rwandais de Rwanda qui ne peuvent plus survoler un territoire. Et la Russie, tout le monde connaît maintenant, beaucoup de pays d'Europe ont dit les avions russes ne peuvent pas entrer dans leur territoire aérien. Donc ça, c'est la 11e frontière que nous avons, qui est gérée ici chez nous par la RVA. Il y a l'autorité d'aviation civile sur là. Nous avons l'armée de l'air pour donner même la RVA. Aucun avion ne peut survoler le territoire sans autorisation. Ils payent même des taxes d'ailleurs, des taxes de survol, de transit. Et donc, nous avons un territoire aérien qui a des frontières. C'est la 10e frontière. Maintenant, ce que j'appelle le territoire bleu dans l'océan Atlantique, nous avons délimité ce territoire par une loi votée par le Parlement. Et ce territoire à une frontière avec la haute mer, après la zone économique exclusive, avec la haute mer. La haute mer, c'est l'espace international. Nous avons l'espace national de la RDC et l'espace international dans l'océan Atlantique. Et il y a une frontière entre les deux. Et cette frontière-là, c'est la frontière qui a été créée en 2009. Ça n'existait pas avant.
Voilà.
Là, elle est là, donc c'est la 11e frontière.
Voilà. Professeur Tshibangu Kalala, on aurait bien voulu aller plus loin. Oui. Je recommande à nos auditeurs ainsi qu'à d'autres personnalités de pouvoir lire davantage ces livres que vous m'avez d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de l'obtenir aujourd'hui et vos mains, qui sera d'ailleurs dédicacé et pour nous permettre de le lire.
Donc je termine pour dire aux Congolais que le principe de l'intangibilité des frontières hérité de la colonisation, elle est reconnue. On ne peut pas remettre en cause nos frontières.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Alain Goy, merci également à Viviane et à Innocent qui ont concouru à la production de cette émission. Jir Lungembo, Luabung Anjaï, le plaisir de la présenter. On se retrouve demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.